À la bonne heure.
Aux zones libres.
Le petit Thomas attend ses parents à la caisse centrale.
Aux zones libres.
Qu'est-ce qu'on a retrouvé, Thomas ?
Aux zones libres. De cristaux.
Aux zones libres. À la bonne heure.
Aux zones libres. Le temps passe.
Bienvenue chez Dobson. Aux zones libres.
Aux zones libres.
Aux zones. Une heure de liberté.
La blague du jour. La scène se passe dans un hôpital psychiatrique où le directeur donc fait venir tout le monde parce qu'il y a un gros problème, c'est qu'on a trop de patients. On a trop de patients, il faut qu'on en fasse sortir. Mais comment les faire sortir ? Eh bien, donc c'est simple, il dit on va vider la piscine et puis donc on va leur demander de sauter. On verra bien, ceux qui sautent, bon bah on les garde, ceux qui sautent pas, on leur permet de sortir. Alors, donc, ils font passer le premier, donc, le médecin lui dit, bon, allez, vas-y, saute. Il saute, il s'écrase dans la piscine, bon, il dit, celui-là, on le garde. Le deuxième, pareil, il s'écrase dans la piscine, pareil pour le troisième. Et puis, là, le médecin commence à dire, bon, voilà, il y a quand même un réel problème. Et donc, ils interrogent le quatrième, alors le quatrième, vas-y, saute. Non, je sauterai pas. Ah, bah voilà une bonne chose, Allez, mets-toi de ce côté-là, comme ça, toi, donc on pourra te faire sortir. Mais une petite question quand même, donc avant que tu partes, pourquoi tu sautes pas ? Bah parce que je sais pas nager. Piqûre, sucre, insuline, traitement, gras, pied, nutrition, cécité. Régime, hypoglycémie, amputation, hérédité, surpoids, suivi médical, pancréas, sang, glycémie, malaise, restriction, contrôle, ras-le-bol, fatigue, soif, frustration, auto-immune, coma, maladie cardiovasculaire, seringue, type 1, type 2 et troisième type. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous allons vous parler donc du diabète. Mais qu'est-ce que le diabète ? Ce n'est pas une bête, une maladie contagieuse, une honte, un affront. Cela ne vient pas du diable, ni des magasins discount. Mais c'est une affection chronique caractérisée par une présence de sucre dans les urines. Cet excès de sucre est dû donc à une mauvaise régulation du taux d'insuline par le pancréas. Pour en savoir plus sur la question, nous avons enregistré il y a peu de temps donc une interview de Madame Lebax, diététicienne de Marevdia, une maison régionale du diabète.
Au sommaire aujourd'hui, nous aurons des petites lectures sucrées du point des mots, un narvalo avec édulcorant de synthèse, une chronique du pôle encore plus allégée, une recette diététiquement adaptée de la petite cuisine d'ozone, un micro-trottoir du troisième type, des musiques 0%, une injection de gazouille en intramusculaire, et on ne sucrera pas l'interview. Pour vous servir aujourd'hui, il y aura Joël, Jean-Roger, Didier, François, Rémi, Stéphane, Jean de la Lune, Béatrice, Sandrine, Vivien et le suave Timothée.
Il fait chaud, hein ? C'est insupportable. Et puis ce sable à perte de vue, c'est désespérant. Le pire, c'est la soif. La gourde se vide très 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 vite. Et voilà, plus rien à boire. Et le soleil qui monte, ça va être de pire en pire. Il a aucune chance de sortir de ce désert. Faut bien avouer qu'il est résistant. Le soleil se couche, je vais en faire autant. Mais ici, la nuit, il fait très froid. On verra s'il survit à une nuit dans le désert, sans aucun équipement. Bon, à demain l'humain. Il fait déjà chaud. Je sens que cette journée va être encore plus brûlante que la précédente. Alors voyons dans quel état se trouve mon ami Homo sapiens sapiens. Si je me souviens bien, il s'était arrêté à la troisième dune, à l'ouest, après le cactus à moitié crevé. Ah, il est plus là. Bon, bah, il a dû survivre. Ah, le voilà. Oh, il a du mal à marcher. Il souffre, le pauvre. Ça devrait plus être très long. Homo sapiens sapiens, l'homme qui sait, le top de l'évolution. Je me demande à quoi ça peut servir, toute cette intelligence. Le mec sait qu'il va mourir. Allez, le soleil est à son zénith. C'est le coup fatal. Ça y est, il bouge plus. Cette fois, c'est sûr, il est mort. À table !
Mmh.
Nous venons d'écouter A Spoonful of Sugar par Duke Ellington.
Parfois appelée maladie du siècle, le diabète touche environ 3 millions de personnes en France. La difficulté du dépistage vient en partie du fait qu'a priori, cette maladie ne fait pas souffrir. Pourtant, les conséquences peuvent être importantes et toucher d'autres parties du corps, comme les yeux, les reins, les pieds, etc. Nous recevons, pour en parler, Madame Lebax, diététicienne de Maredia, la maison régionale du diabète située place Alfred de Musset, immeuble Sequoia. Mais tout d'abord, une question de micro-trottoir.
Si on vous dit diabète, qu'est-ce que ça invoque pour vous ?
Une maladie du pancréas.
Le sucre.
Ce qui est gras aussi.
Il y a le diabète de type 2 et il y a le diabète que les gens sont obligés de se piquer. Mais moi, je ne me pique pas, j'ai juste deux cachets à prendre par jour.
Vous êtes du diabète
de type 2.
Des graves problèmes de santé.
Oui. Être obèse.
Être obèse, ouais.
D'accord.
Et encore, ça vous évoque d'autres choses?
Oui, j'ai des personnes des piqûres et j'ai des élèves qui ont, disons, du diabète. J'ai même eu mon chat qui a eu du diabète. Pendant 3 ans, j'ai dû donner des piqûres à mon chat.
Médicaments tous les jours, matin, midi, soir. Prise de sang tous les jours et puis contrôle régulier chez le médecin.
Sucre. Ah, du sucre dans le sang, ça, non? C'est quelque chose comme ça, non?
Mm-hmm. Enfin, c'est trop de sucre dans le sang, enfin, une chose comme ça, hein. Mm-hmm. Bon, d'accord. Faut faire régime, non? Faut pas manger trop de sucré, faut pas manger trop de pain.
Madame, bonjour.
Bonjour.
Tout d'abord, pouvez-vous nous décrire les différents types de diabète?
Alors, en fait, il y a plusieurs types de diabète. Il y a le diabète type 1, le type 2, le diabète gestationnel. Le type 1, en fait, c'est le pancréas qui ne marche plus du tout. Donc là, il faut donc faire des injections d'insuline. Le type 2, le pancréas fonctionne encore un petit peu. Donc là, il faut l'aider par des traitements médicamenteux. Ça peut après aboutir, bien sûr, après, où il ne fonctionne plus du tout. Donc là, il faut passer après à l'insuline. Et diabète gestationnel, en fait, c'est un diabète qu'on a quand on est enceinte et qui s'arrête une fois qu'on a accouché. Mais il y a un risque plus tard d'en refaire une fois qu'on va, quelques années après.
À quoi sert le pancréas dans le fonctionnement et le rapport avec le diabète?
Alors, le pancréas, en fait, c'est un organe qui sécrète l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone qui permet de faire rentrer le sucre dans les organes, dans les muscles. Donc, quand on est non-diabétique, donc ça marche bien. En fait, dès qu'on mange un petit peu, le sucre passe dans le sang. L'insuline va capter ce sucre pour l'emmener vers les organes qui, eux, ont besoin de sucre pour fonctionner. Un diabétique, en fait, l'insuline est sécrétée, de type 2, en fait, l'insuline est sécrétée vraiment en petite quantité, donc pas suffisamment pour faire rentrer l'insuline dans les organes, et c'est donc là où il y a besoin du traitement. Donc le pancréas donc, sert à sécréter l'insuline.
Peut-on guérir du diabète?
Non, malheureusement non, on n'en guérit pas. On vit avec, mais on ne peut pas en guérir. On n'a pas trouvé encore le traitement pour en guérir.
Maintenant, nous allons écouter une seconde question du micro-trottoir.
Et à votre avis, quelles sont les causes du diabète?
C'est un problème de foie.
Oh, il y en a un paquet. Ça peut être génétique, ça peut être dû à une mauvaise alimentation, un choc psychologique.
Je vais pas vous le dire, j'en sais rien. Moi, ça m'a pris tout d'un coup.
Vous aviez quel âge quand vous avez...
80 ans.
D'accord.
J'ai 83 maintenant.
L'obésité, des fois c'est pas génétique, des fois c'est dans les familles, mais enfin c'est souvent l'obésité.
Malnutrition.
On dit souvent que c'est le surpoids.
D'accord.
Consommation sucrée trop importante, des choses comme ça. Voilà.
Ah, le surpoids, je suppose, et puis la vieillesse, et puis je sais pas trop. Hein.
Est-ce que vous avez des questions par rapport à la question que l'on vient d'entendre et les diverses personnes qui ont répondu au micro-trottoir qui vous touchent ou vous alertent?
Alors, à un moment donné, en fait, on parle que c'est une question de surpoids. Oui, le surpoids, l'obésité peuvent entraîner, enfin, serait un facteur de risque du diabète. Après, le fait de dire que parce qu'on a mangé trop sucré, on est diabétique, non. Ce n'est pas parce que j'ai mangé trop sucré que je vais devenir plus tard diabétique. Comme quelqu'un, même si mes parents sont diabétiques, ça ne veut pas dire que moi, je le serai. Donc le fait de... c'est aussi le rendre aussi les gens pas coupables de leur maladie. C'est une maladie, je ne suis pas responsable de ma maladie. Voilà, comme quand on a une grippe. Quand j'ai une grippe, c'est pas à cause de moi, c'est côté pas de chance, ça peut aussi arriver. Donc c'est pas parce que j'ai mangé trop sucré que je vais devenir forcément diabétique. Ou pareil, si je n'ai pas fait assez de sport, ce n'est pas à cause de ça que je vais le devenir. Ce sont, en fait, sont plein de petits facteurs de risque qui se conjuguent. Et bout d'un moment, je peux avoir un diabète. Mais ce n'est pas à cause de ces problèmes, hein, ce n'est pas à cause de l'alimentation, à cause du surpoids, à cause de l'obésité, à cause de mes parents, etc., que je vais le devenir. Ça, peut-être je vois un petit peu. Mais ça, après, on n'est pas non plus sûr à 100%.
Quels sont, selon vous, madame, les facteurs de risque? Est-ce héréditaire? Peut-on être diabétique?
Alors, le diabète, donc, il y a plusieurs origines. Il y a l'origine hérédité. Si nos parents, si nos grands-parents ont été diabétiques, il y a de forts risques qu'on le devienne. Alors, ça ne veut pas dire qu'on le sera, mais il y a des risques de le devenir. Il y a la question aussi de l'obésité. Quand on souffre d'une obésité, c'est aussi l'une des complications. Il y a aussi le côté pas de chance. Malheureusement, voilà, c'est une maladie. En fait, c'est pancréas qui fonctionne moins bien. Et c'est un peu, ça peut toucher un autre organe. Mais c'est, il y a aussi le côté vieillissement.
Quelles sont les classes d'âge les plus touchées? S'il y en a?
Alors, pour le diabète de type 1, donc là, ce sont les enfants. En fait, ils naissent. En fait, c'est une maladie auto-immune. En fait, c'est pancréas qui ne fonctionne plus du tout. Le type 2, hein, donc en général, c'est plutôt avec l'âge qu'on a le type 2. Mais malheureusement, à l'heure actuelle, on se rend compte de plus en plus de gens sont de plus en plus jeunes à avoir le diabète de type 2. Donc, il n'y a plus vraiment d'âge par rapport à cette maladie.
L'augmentation, madame, du nombre de diabétiques peut-elle être expliquée par ce que vous venez de dire, le mode de vie sédentaire, la nourriture, meilleur dépistage? Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de signes comme ça qui alertent avec tout ce que vous avez dit.
Ça peut jouer. C'est vrai que plus on a une vie sédentaire, plus on a de risques de devenir. Mais voilà, après, faut bien distinguer vraiment avoir des risques et la cause. Ce n'est pas parce que je ne fais pas de sport que je vais devenir forcément diabétique. Je conjugue plusieurs risques pour devenir diabétique.
Comment se passe l'éducation des diabétiques?
L'éducation diabétique, alors là en fait, c'est qu'on... À l'heure actuelle, on parle vraiment de tout ce qui est éducation thérapeutique du patient, le TP. Hein, donc on aide le patient à devenir acteur dans sa maladie. Simplement parce que si on dit au patient, voilà, il faut prendre vos médicaments, manger équilibré, et puis c'est tout, il va peut-être le faire pendant un jour, deux jours, puis au bout de quelques temps, il va arrêter. Par contre, si je le guide, si je l'aide à faire ces choix-là, en fait, il pourra mieux vivre avec son diabète.
Donc en fait, les traitements par insuline ou par médicaments, il n'y a pas que ça, quoi.
Il n'y a pas que ça. En fait, un diabète, pour avoir un diabète équilibré, il faut trois choses. Prendre son traitement, c'est un peu comme un trépied. Hein. Prendre son traitement, manger équilibré et faire une activité physique. Si je fais les trois, j'ai tout pour avoir un diabète équilibré. Mais malheureusement, la vie est faite aussi d'aléas. Donc il suffit un jour d'un souci. Enfin, voilà, la vie apporte aussi des fois des soucis, des problèmes. Et ça peut des fois basculer son diabète parce que le stress a aussi un rôle dedans. Enfin, rentre dedans. Et donc, ça peut des fois être un peu déséquilibré. Mais une fois que le souci, après, commence un petit peu à se stabiliser, le diabète redevient équilibré.
Existe-t-il un dépistage automatique?
La prise de sang. Voilà, il n'y a uniquement que la prise de sang qui permet vraiment de dire si on est ou pas diabétique. Alors après, pour ça, on a quand même des petits signes qui alertent, précurseurs par rapport au diabète. Si on se rend compte qu'on boit beaucoup, par exemple, que l'on urine beaucoup, ça peut être des petits signes d'alerte pour le diabète.
D'accord. Ça peut conduire jusqu'à où, le diabète?
Il y a plein de complications pour le diabète. Hein. Ça peut toucher tous les organes. Hein. Ça peut toucher les yeux, donc on peut devenir aveugle. Ça peut toucher les reins, donc on peut finir en dialyse. Ça peut toucher les pieds, donc on peut finir amputé. Alors voilà, après, je parle vraiment des complications vraiment à l'extrême, en fait. Hein. Mais voilà, faut savoir que le diabète peut engendrer beaucoup
c'est
de...
Pas
beaucoup
une maladie de... Anonyme. Ce n'est pas une maladie anonyme. Quoi.
Tout à fait.
D'accord, il y a vraiment des risques.
Oui, oui, oui. Et en fait, le premier cas, c'est qu'en fait, le diabète, c'est une maladie on ne la sent pas. On ne sait pas qu'on ne sent pas du tout qu'on est diabétique. Donc elle, en fait, elle fait son petit bout de chemin de manière très, très sournoise, sans qu'on s'en rende compte. Et le jour où on s'en rend compte, il y a souvent quelques complications qui sont déjà apparues.
Et on n'y peut rien, en fait. Après, il est trop tard. On est au traitement
On est sous traitement. Une fois qu'on est diabétique, oui, on est sous traitement à vie. Oui, puisqu'on ne peut pas en guérir. Voilà. Le traitement, en fait, ça aide aussi. Hein. Enfin, plus on va être... comment dire, si on est vraiment très attentif, hein, pas attentif, je vais prendre, mais si on est vraiment rigoureux, entre guillemets, à son traitement, à sa hygiène de vie, hein, on peut retarder, éviter ces complications. Par contre, dire à quelqu'un, c'est sûr, vous n'aurez aucune complication si vous prenez bien votre traitement, si vous mangez équilibré, ça, on n'a pas le droit de le dire. Parce qu'on ne sait pas s'il y aura ou pas complication. Après, on peut des fois retarder juste l'échéance.
Un petit dessert de Marino, la confiture. La confiture, ça dégouline, ça coule sur les mains, ça passe par les trous de la tartine. Pourquoi y a-t-il des trous dans le pain? Bien sûr, on peut avec du beurre, les trous, on peut bien les boucher. Ça ne sert à rien, c'est un leurre, car ça coule par les côtés. Faudrait contrôler sa tartine, la tenir droite exactement. On la met en bouche, ça coule irrémédiablement. Et ça vous coule dans la manche, et ça vous longe le pourpoint, de l'avant-bras jusqu'à la hanche, quand ça ne descend pas plus loin. Et quand ça coule pas, ça tombe, le pain s'écrase entre les doigts, ça ricoche, puis ça retombe. Côté collant, ça va de soi. On tente de passer l'éponge, on en met plein ses vêtements. Plus on essuie, plus on allonge, plus on frotte et plus ça s'étend. C'est pour ça qu'il y en a qui préfèrent manger de la crème de marron. Ça colle au pain, c'est sans mystère, c'est plus commun, mais ça tient bon. On fait l'école buissonnière, de retour, on prend l'escabeau, on va tout droit vers l'étagère. Pourquoi tourner autour du pot? Qu'elle soit aux fraises, à la larme, ou la gorgise de brûlant. La confiture, on la chaparde, on l'aime clandestinement. Puis un jour, on l'est bien en place, on aime la vie de château. Dans les avions, dans les palaces, on vous porte sur un plateau. La confiture qui dégouline, qui coule sur les mains, il passe par les trous de la jardine. Pourquoi y a-t-il des trous dans le pain? Bien sûr, on peut avec du beurre. Les trous, on peut bien les boucher. Ça ne sert à rien, c'est un leurre. Car ça coule par les côtés.
Ça coule par les combinaisons.
Vous venez d'écouter Les Frères Jacques, la confiture. Et maintenant, nous allons retrouver la suite de notre interview sur le sujet du jour. Maintenant, nous allons écouter une troisième question du micro-trottoir.
Et quelles sont les répercussions du diabète dans la vie de tous les jours?
Il faut suivre un régime strict.
Ah bah, faut une hygiène de vie... très, très minutieuse, faut faire attention aux horaires où on doit manger. Quoique ça s'est bien amélioré maintenant avec les nouvelles insulines, mais c'est assez strict, oui, le, Le régime alimentaire, on ne mange pas tout ce qu'on veut quand on veut.
Moi, je ne mange pas beaucoup de sucre, c'est tout. Je fais pas attention. J'essaye de ne pas manger trop de sucre. Donc, je mets juste un sucre dans mon café. Il faut faire attention, quoi.
Pour moi, rien. Pour lui, oui, c'est certainement. Oui, parce que, bien sûr, quand je le vois, disons, je dois avoir certaines boissons dans la maison. Au cas où il fait une crise, etc.
Donc... il est obligé de se soigner en permanence, hein, de prendre son taux de sucre, etc., avec son petit engin, en père, son nana, et puis s'infiler sa dose d'insuline.
Il y a quelques contraintes, effectivement, la consommation de médicaments de manière importante, quand même. Et puis la contrainte, éviter les produits trop sucrés, les choses comme ça. Oui. Sinon, le reste, j'ai pas personnellement de soucis physiques autres. J'ai pas de problème, je peux travailler normalement, je peux, à condition de prendre certaines précautions quand même, mais je vis normalement. Un peu de
glycémie, oui, c'est ça, au niveau du taux aussi, il ne faut pas que ça dépasse. Ouais, voilà. Je crois qu'il ne faut pas que ça dépasse 1,12 ou 1,46, je ne me souviens plus. Et c'est vrai que c'était chiant, c'était pénible parce que je me piquais le matin au réveil. Et puis après le déjeuner, quand je me réveille le matin, j'ai fait dans les 0,98. Après le petit déjeuner, je ne devais pas dépasser 1,21, je crois. Et puis c'était des fois quand je mangeais bien, ça veut dire quand j'allais manger à côté, vous voyez là-bas, kebab, ça veut dire que j'avais envie tout le temps, des kebabs, des pizzas. Et des fois, ça me prenait quand je suis enceinte, j'ai tellement des envies. Alors quand je mange, et puis, oh là, je vais jusqu'à 2 et quelques, quoi. Et puis quand j'arrive au niveau consultation, le médecin n'est pas content, quoi. Et je me dis, sois sérieuse, t'es malade, c'est pas, t'imagines, tu peux accoucher aussi un enfant. Il paraît que, comme on m'a expliqué aussi au niveau du cœur aussi, l'enfant, il peut avoir aussi un gros cœur, il peut aussi. Ça peut arriver quelque chose aussi à la naissance, que je veux dire, quoi. Et j'ai pas envie de perdre mon fils.
Ma nièce, la maman du. Elle se gère depuis longtemps parce que c'est de famille chez eux. Mais par exemple, son fils, quoi, sur qui c'est tombé comme ça d'un seul coup, pour lui, c'est beaucoup plus difficile à gérer. Et comme tout le monde, il a envie de temps en temps de s'amuser. S'il fait un petit écart, ça lui coûte 8 jours d'hôpital.
D'accord.
Pour se remettre, il lui stabilise, c'est ce qu'on dit, hein.
Votre réaction ?
Alors, j'ai entendu, il y a beaucoup de choses qu'on entend. Hein. On parle beaucoup du sucre. Oui, il faut faire attention au sucre parce que justement, comme on a vu tout à l'heure, hein, en fait, comme l'insuline fonctionne très, très peu ou très mal, enfin pas suffisamment, hein, il faut donc faire attention au sucre. Mais il faut faire attention aussi au gras. Donc, on oublie souvent le gras, mais la matière grasse, il faut aussi la faire attention. Hein. Ensuite, par rapport au régime, alors en fait, régime veut dire alimentation. Donc, en fait, alimentation pour un diabétique, en fait, tout le monde devrait manger comme un diabétique. Il n'y a pas de régime spécifique. Enfin, dans le sens où c'est comme c'est la manière la plus parfaite qui puisse exister comme alimentation, il ne faut pas qu'il se sente vraiment dans un régime strict. On a droit de faire aussi de s'entendre des petits écarts. Il n'y a pas de problème pour faire un écart. Par contre, l'écart, il sera donc avant. Quand on fait un écart, il faut savoir quel écart on fait, à quel moment on le fait. Et qu'est-ce que je peux faire à côté pour justement équilibrer cet écart? Et ce n'est pas parce qu'on a mangé une fois un gâteau au chocolat ou qu'on a mangé tout ce qu'on peut imaginer comme écart que le régime, que le diabète est foutu. Voilà. Oui, pendant quelques temps, je vais être un petit peu déséquilibré, mais très vite, il va se rééquilibrer. En fait, on ne peut pas non plus, durant toute sa vie, tous les jours, être toujours sur quelque chose de très strict. Voilà, quand on est invité, quand on reçoit un repas de Noël, un repas d'anniversaire, de fête. Voilà, c'est pas ce jour-là, on va manger haricots vapeur et puis poisson bouilli. Et encore, même eux, c'est même pas dans un régime. C'est pratiquement que du bon sens, en fait. C'est du bon sens. Manger de tout en bonne quantité.
Quelle reconnaissance ou quelle prise en charge sur le plan administratif au niveau de la sécurité sociale, de la MDPH?
Alors là, je ne vais pas pouvoir vous répondre parce que je ne suis que diététicienne. Donc là, c'est pas vraiment de mon métier. Enfin, là, je ne sais pas, la reconnaissance. Non, je ne vais pas vous répondre. Je ne sais pas.
Mais du moins, ce que vous connaissez, y a-t-il une prise en charge de diabétiques?
Alors, nous, à Maredia, parce que je travaille à Maredia, mais sans régime du diabète, on prend en charge les diabétiques de type 2. Donc ça, c'est une prise en charge. Donc on leur permet d'accéder à des consultations chez une diététicienne, de participer à des ateliers diététiques, infirmiers, cuisine. On les aide aussi à la reprise d'activité physique. On fait aussi avec eux des consultations privées. comme aussi atelier en groupe.
Les sucres, est-il le principal ennemi ou tout simplement un élément vraiment à combattre?
Alors, le mot ennemi me paraît un peu dur, hein, mais je dirais plutôt faire attention. Faire attention au sucre. Alors après, c'est vrai qu'on a souvent, vraiment le mot sucre pour un diabétique. Alors ce qu'il y a, c'est qu'il y a de cela très longtemps, les traitements n'étaient pas aussi efficaces que maintenant. À l'heure actuelle, les traitements sont très efficaces, ce qui fait que les patients diabétiques peuvent manger un peu plus librement. Voilà, il y a de cela, une quinzaine, vingtaine d'années, hein, ils devaient compter tout ce qu'ils mangeaient. Voilà, et vraiment au gramme près, en féculents, en fruits. À l'heure actuelle, on parle de portions approximatives. D'accord ? Donc, ce qui fait que le sucre n'est pas à bannir. On peut en consommer. Mais après, si je consomme du sucre, en même temps du sucre en morceaux, hein, le manger plutôt à la fin du repas. En fait, comme le repas sera composé d'une entrée, donc une crudité, une viande qui va apporter des protéines, qui retarde justement l'absorption du sucre, de légumes. Hein. Les légumes, eux, contiennent des fibres, pareil, qui retardent aussi l'absorption du sucre. Des féculents qui sont une source de sucre lent. Ensuite, un produit laitier qui apporte donc aussi des protéines, d'un fruit. Donc, comme c'est donc bien équilibré, hein, ben je peux donc manger. Après, je mettrai, même si je veux, un petit sucre dans mon café sans problème. Parce que j'aurai eu tout mon repas dans le ventre.
Et que pensez-vous des édulcorants à la place du sucre?
J'y pense que du bien. Le sens, en fait, hein, par rapport à tout ce qui est édulcorant, pour que ça devienne néfaste, il faut prendre plus de 2 grammes par kilo de poids. Donc c'est impossible, à moins de prendre vraiment le pot d'aspartame et puis l'avaler d'un coup, hein, ce qu'on ne fait pas. Donc on peut consommer tout ce qui est édulcorant sans aucun problème. Le bémol des édulcorants, c'est qu'en fait, on garde toujours ce goût du sucre. Donc c'est vrai que, imaginons que quelqu'un a l'habitude de prendre 2 sucrètes dans son café, et qu'en fait, qu'il me dit chez quelqu'un, et qu'en fait la personne n'est pas de sucrètes, mais uniquement que du vrai sucre, il ne mettrait pas compte, lui, dans ce cas-là, vraiment 2 morceaux de sucre. Parce qu'il aura toujours ce goût du sucre, cette appétence au sucre, ces petits bémols, tout ce qui est édulcorant.
Et les diabétiques, ont-ils droit de donner de leur sang aux autres?
Une bonne question. je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient pas. Oui, je pense qu'ils pourraient donner du sang. Après, c'est plus un médecin qui pourrait vous répondre.
Ou du moins, leur sang n'est pas contaminé, c'est ça le problème.
Alors, en fait, un diabète, c'est le pancréas qui fonctionne mal. Mais ce n'est pas une maladie qui est transmissible. Donc voilà, donc même si un patient diabétique saigne et qu'il vous touche, ce n'est pas pour autant que vous aurez diabète. Voilà. Pareil, si vous buvez dans le verre de quelqu'un qui a du diabète, vous ne serez pas diabétique. Ce n'est pas du tout transmissible. Donc, ce qui fait que faire un don de sang, c'est pas en faisant un don de sang qu'on sera diabétique. C'est le pancréas qui ne fonctionne pas. Ou qui fonctionne peu.
Excusez-moi. Maintenant, nous allons écouter une dernière question du micro-trottoir.
Connaissez-vous un diabétique dans votre entourage immédiat dans votre famille?
Non, pas du tout.
Oui, ma mère est insulino-dépendante depuis 35 ans.
Oui.
Disons, cette personne qui a du diabète, il n'était pas du tout obèse. Une personne tout à fait normale. Il a eu du diabète comme ça, c'est arrivé d'un seul coup.
Oui, moi. En fait, c'est ce qu'on appelle le diabète gras, c'est-à-dire justement lié à un surpoids. J'ai pas besoin d'insuline. Pour l'instant, les médicaments suffisent pour me maintenir à peu près à un niveau acceptable par mon corps. Il a dû démarrer en avril 2007 et découvert en septembre.
D'accord.
Entre deux, j'ai perdu 20 kilos. C'est comme ça que le médecin a trouvé quelque chose d'anormal, pardon, et a fait faire les examens.
Je sais que j'ai perdu un oncle, ça va faire 2 ans là, cette année. Et il est mort, il était diabétique.
Ouais, pour moi, c'est une maladie grave. Il y a 3 phases. Il y a le diabète A, le 2.
Le type 1.
Oui, type 1, A, A et type 2. Et il n'y a pas 3 aussi?
Non, il y a 2, hein, je crois. Moi, je connais que 2, moi. 1 et 2. Qu'on a, comme celui que j'avais quand j'étais en grossesse à mon fils, j'avais le type 2. Vrai. C'est le type 2, je crois. Je ne suis pas vraiment, je ne sais plus. Enfin, bref. Et gestationnel, voilà, c'est ça. Bah, c'était pendant la grossesse.
À combien de mois?
J'étais jusqu'à la fin quand même. Après, c'était fini après la fin. Une fois que j'ai accouché, quoi.
Ça a été
voilà,
fini.
Ouais. D'accord. Ah oui, ça m'a fait vraiment peur. J'ai pleuré le premier jour quand je l'ai appris. J'ai parti pour une consultation normale. Hein. Et j'ai appris que j'avais le diabète gestationnel. Je me suis dit, quoi. Quand j'ai entendu le diabète, je me suis déjà comme j'avais un oncle qu'il a dans la famille. Oui, il dit, c'est hérité. Et pareil, ça peut retourner au niveau de la famille. Et moi, ça m'a fait peur. J'ai pensé à lui. Oh! Et puis, le médecin m'a expliqué calmement, en me disant que ce n'était pas ça. Mais on ne sait jamais. J'ai quand même un risque quand même.
Eh oui, moi j'en ai deux chez moi. J'ai une nièce et son fils. Ils sont diabétiques tous les deux.
Non, non, non.
C'est-à-dire que j'ai eu un problème de cœur. C'est à la suite de tous ces... J'ai été passer des examens qu'on a trouvé que j'avais du diabète. D'accord. Mais c'est monsieur le gars qui me soigne, là, le docteur là. J'ai les yeux cachés tous les matins. Il ne faut pas que je les oublie par contre. Hein.
Votre réaction, madame ?
Par rapport au diabète, par le fait qu'il y ait des gens qui entourent, oui, de plus en plus de personnes auront du diabète. Hein. C'est la maladie du siècle, hein, comme vous disiez à l'introduction. Hein. C'est pour ça. Après, ce qui m'a fait assez sourire, c'est les différents types, là, type 1, type 2, peut-être le type 3. Il n'y a pas de type 3, hein, c'est le type 1, le type 2, diabète gestationnel. Après, ce que je peux dire aussi, c'est qu'il n'y a pas de petit ou de grand diabète. Une fois qu'on est diabétique, on l'est. On ne peut pas dire que j'ai un petit diabète, donc ce n'est pas grave, on verra plus tard. Non, dès que j'ai un diabète, si je le suis, et puis je serai jusqu'à la fin de ma vie. Hein. Ensuite, diabète gestationnel, hein, donc on l'est durant la grossesse, d'où le nom gestationnel, la gestation. Hein. Une fois qu'on a accouché, le diabète disparaît, mais il y a le risque plus tard, peut-être de faire un diabète plus tard type 2. En général, les femmes qui ont eu un diabète gestationnel ont un risque de devenir diabétiques plus tard. Ça ne veut pas dire qu'elles le seront, hein. Mais elles ont le risque.
Pourquoi une association pour diabétiques ?
Parce que c'est la maladie du siècle. Enfin, c'est une maladie du siècle. Parce que, en fait, quand on est diabétique, c'est comme un bouleversement dans la vie. Quand on a le diagnostic d'un seul coup, on a l'impression que tout s'effondre parce qu'il y a toutes ces complications qui font peur. On a toujours quelqu'un qu'on a connu qui s'est fait amputer, qui est devenu aveugle. Donc, c'est effrayant. Hein. Donc, là, en fait, le but, c'est vraiment d'accompagner les patients. Les personnes ayant un diabète. Parce qu'on peut vivre avec un diabète. Enfin, voilà, dans l'association, donc, nous, on a une patiente qui part en vacances tous les ans. Elle est partie au Pérou, elle est partie au Brésil, elle part partout. Elle est en plus sous insuline. Donc ça montre bien, voilà, qu'on peut vivre avec un diabète sans problème en faisant attention à certaines petites choses.
Et vous, dans votre cas de salarié à la... Si je ne me trompe pas, c'est à la...
À Maridia.
Oui,
c'est pas grave.
Est-ce que vous aidez les personnes à accepter leur maladie dans leur vécu et vous les accompagnez, par exemple, par des activités, un programme d'activité quelles sont les actions qui sont mises en place et qui travaillent dans votre structure ?
Alors, dans notre structure, en fait, donc, on a déjà un médecin coordinateur, hein. On a une secrétaire, alors je parle vraiment de Évreux. Hein. Donc on a un médecin coordinateur, on a une secrétaire, il y a une infirmière, hein, et puis donc il y a moi qui suis diététicienne. Ensuite, on est après sur différents sites de la Haute-Normandie. Donc on a aussi un bureau ici sur Rouen. On est aussi sur Dieppe. Là, dans l'Eure, on met aussi en route des ateliers dans le sud de l'Eure, donc sur Conches, sur Danville. Hein. Donc on est vraiment sur plein de... On est aussi sur Gaillon, on est aussi sur Bernay. Hein. On essaie d'être vraiment le plus proche des patients, parce qu'on sait très bien qu'un patient de Conches ne pourra pas monter sur Évreux, parce que si, dans l'Eure, pour circuler, ce n'est pas non plus si évident que ça. Donc on essaie d'être vraiment le plus proche des patients. Après, ce qu'on permet aux patients, qu'on propose aux patients, c'est d'accéder aussi à des consultations chez une diététicienne, parce que la diététique fait partie du trépied. Donc ils peuvent donc avoir un bilan avec une diététicienne plus de suivi. Donc nous, Maridia, on prend en charge ces trois consultations. On leur permet ensuite d'accéder à des ateliers diététiques, ateliers infirmiers, ateliers cuisine. Donc ateliers infirmiers, donc on va faire par exemple comme thème qu'est-ce que le diabète, qu'est-ce que l'insuline, comment prendre mon traitement, donc différents thèmes sur le diabète en lui-même. Ateliers diététiques, on va parler donc des glucides, donc c'est le sucre, les matières grasses, les lipides. On va faire aussi comme autre thème lire les étiquettes, les repas de fête, enfin plein de thèmes, différents thèmes comme ça. En cuisine, alors en fait, en cuisine, le but, en fait, c'est pas d'apprendre aux gens à cuisiner, parce que les gens savent cuisiner. Mais en fait, c'est leur proposer en fait d'autres recettes, voilà, pour changer un peu des riz, pommes de terre, pâtes, parce que c'est toujours la même chose. Proposer d'autres plats qui peuvent être un peu plus sympathiques. Pareil aussi, comme thème, on a eu en décembre repas de fête. Donc on a cuisiné du foie gras, on a mangé un gâteau, on a mangé un repas normal, traditionnel, de repas de fête.
Donc, en fait, une alimentation variée peut-elle suffire à ne pas avoir le diabète malgré le fait de, d'être... comment on dit d'être... j'ai un trou, là. D'être sédentaire.
Alors, le fait de manger équilibré ne veut pas dire que je n'aurai pas de diabète. C'est une prévention. Je peux... On ne peut pas dire qu'en mangeant équilibré, en faisant du sport, en ayant une hygiène de vie parfaite, que je ne le serai pas. Je fais la prévention. Si un jour je suis diabétique, en fait, j'aurais peut-être justement retardé l'échéance. D'accord ? Inversement, quelqu'un qui a mangé du sucre toute la vie peut ou ne peut pas être diabétique. Ce n'est pas forcément lié à l'alimentation. Ça joue un petit peu, c'est un facteur de risque, mais ce n'est pas à cause de ça que je vais le devenir. Là, il faut vraiment rendre vraiment les gens non, enfin vraiment les vraiment par rapport au diabète. C'est pas à cause d'eux qui le sont.
Bien, je vous remercie, Madame Lebax. Je rappelle que vous êtes de la maison régionale du diabète qui est située place Alfred de Musset, immeuble Sequoia à Évreux.
Oui.
Madame Lebax, notre invitée diététicienne nous a gentiment rappelé par téléphone pour apporter une réponse recueilli auprès d'un diabétologue à la question de savoir si un diabétique pouvait ou non donner son sang.
Donc en fait, donc par rapport à la question sur est-ce qu'un patient diabétique peut faire un don du sang, il y a plusieurs réponses. Donc pour un patient de type 1, donc en fait si le pancréas ne marche plus du tout, il y a un décret de janvier 2009 qui précise que les patients de type 1 sont exclus des dons de sang. Alors, c'est pas à cause du risque de transmission de diabète, parce qu'en fait, le diabète ne se transmet pas avec le sang, mais en fait, c'est parce que ça risque de favoriser une hypoglycémie pour le patient qui donne. Pour le diabétique de type 2, donc ceux qui n'ont pas de traitement médicamenteux, ils peuvent donner leur sang à condition que leur diabète soit équilibré. Sinon, il y a un risque de malaise et que la tension artérielle soit correcte. Par contre, pour ceux qui ont des médicaments, donc les médecins du centre de transfusion qui adoptera en fait une attitude de prudence, donc pour savoir s'il faut contre-indiquer le prélèvement. Donc c'est surtout parce que ça cause la présence de médicaments dans le sang qui fait qu'on pourrait peut-être ne pas pouvoir le donner. Voilà, mais en fait, par contre, par rapport à ce point-là, il n'y a pas de décret par rapport à ça. Donc voilà, donc le type 1, il y a un décret qui leur interdit le don de sang. Pour le type 2, ceux qui n'ont pas de traitement médicamenteux peuvent donner leur sang, à condition que leur diabète soit équilibré et qu'il n'y ait pas de tension artérielle. Et pour ceux qui ont un traitement médicamenteux, c'est le médecin qui décide s'ils donnent ou pas leur sang à cause de la présence de médicaments dans le sang.
Sous chemin, mi wa kou kon a plein, ki kote zo ti vyan. Partout mi sa va, tout sa mi konpon pa, na to wa ti wa tia, tout lwa ti wa tia, tout so twa ti wa tia.
Segal et Pires Fascini interprétant la chanson Manger pour le couet.
Juste un petit moment encore. Tout est calme, c'est la paix, tout est joyeux.
l'harmonie règne, le caractère, les goûts, les idées, les uns et les autres se complètent, enrichissent la vie. On vagabonde, pas de contraintes. Juste se laisser surprendre par un chemin verdoyant, florissant. Le pépiment des oiseaux, la musique du ruisseau, on rit, on communique, en chantant. Le soleil est toujours présent. On se pose là où bon nous semble. Encore, il n'y a plus d'heure. Juste des espaces de repos à notre gré. Et cette vie-ci nous suffit. Chacun l'apprécie. Plus de passé douteux, dépasser ses notions, ses poisons, ses connaissances de l'avenir. Pas d'appréhension, simplement le présent. Et cette belle illusion d'une vie autre, légère, généreuse, heureuse. Non, ne me réveillez pas. Juste un petit moment encore dans ce rêve délicieux.
Et maintenant, on retrouve la petite cuisine d'Ozone.
Bonjour. Alors aujourd'hui, la petite cuisine va faire donc un gâteau léger et rapide à l'ananas. Donc c'est quoi un gâteau léger ? C'est un gâteau à teneur en sucre contrôlé. Ce qui veut dire que c'est un gâteau que les gens qui sont malheureusement diabétiques pourront manger. C'est pas superbe ça ? Alors la préparation, c'est 15 minutes. Bon, c'est pas bien long. Le temps de cuisson, bon, c'est un petit peu plus long, c'est 30 minutes. Mais bon, c'est pas un problème. Du point de vue ingrédients, nous avons besoin de 2 œufs jaunes et blancs, 120 g de sucre ou 5 cuillères à soupe d'aspartame, pour les gens qui ne veulent surtout pas de sucre, un demi-verre de lait concentré, non sucré bien sûr, soit une petite boîte, 2 cuillères à soupe d'huile neutre, un demi-paquet de levure chimique, un demi-paquet de sucre vanillé, 125 g de farine tamisée, 1 ou 2 cuillères de Malibu, mais nous en mettrons pas, et une grande boîte d'ananas en morceaux. Voilà, là vous avez tous les ingrédients pour faire ce fameux gâteau.
Mais nous allons commencer à casser les œufs et les mélanger avec le sucre et le sucre vanillé. Les faire blanchir. Parce qu'en fait, en les émulsionnant, enfin en les faisant, sucre vanillé, il en faut 1 ou 2.
2.
Et bien en fait, ils deviennent un peu blancs, quoi.
Ah bon?
Et en fait, en faisant ça comme ça, on empêche le sucre de cuire le jaune d'œuf.
D'accord.
Mais là, après, ton jaune ne va pas coaguler avec le sucre.
D'accord.
Donc, il faut touiller. Il faut tamiser la farine.
Et il en faut combien de farine?
Avec la levure. Alors, la farine, 125 grammes. Donc 125 g de farine tamisée.
Ensuite, la moitié de la boîte d'ananas.
Un peu plus épais.
L'huile et le lait. On doit obtenir une consistance proche de la pâte
très épaisse. Ouais.
Et ensuite, on ajoute les dés de la moitié de boîte d'ananas.
Il faut bien combler le fait que je n'ai pas.
Attention, parce que normalement, donc, on a besoin du reste.
Non. Oui, parce que. Oui, mais là, je ne peux pas. Je n'ai pas de batteur pour faire les montées de
sel. Oh, ça
suffit. La crème au truc, là. Ça bon, la suffit. Prochaine fois, c'est toi que je vais battre.
Ouais.
C'est ma zone en plus. Écoute, au diable la Maris, hein. Mais c'est des gros machins. Des gros morceaux, pardon.
Alors, on verse la préparation dans le moule.
Et comme d'habitude...
Il doit s'appeler normalement un moule à Savarin. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un moule?
C'est pour ça, un moule à Savarin.
Ah ben, écoutez, moi, c'est marqué. Hein, bon,
c'est parce que ça aurait dû être ça. Un moule à Savarin, c'est comme une couronne avec un machin au milieu.
Attendez, j'allais vous le dire. Normalement, un moule à Savarin, c'est un moule en couronne avec un trou au milieu.
Ouais,
alors... Donc là, nous venons de mettre au four la pâte. Donc il faut baisser la température à 180 degrés et il faut laisser cuire donc environ 30 minutes. Pour mémoire, donc il fallait comme ingrédient, il fallait 2 œufs, donc les jaunes et les blancs, 120 g de sucre, donc ça représente 5 cuillères à soupe d'aspartame, puisque donc ce gâteau est destiné aux gens qui sont diabétiques. Ensuite, il faut un demi-verre de lait concentré, non sucré bien sûr, ça représente une petite boîte. 2 cuillères à soupe d'huile neutre, un demi-paquet de levure chimique, un demi-paquet de sucre vanillé, 125 g de farine tamisée, une ou deux cuillères à soupe de Malibu, enfin nous, nous n'en avons pas mineur. Et donc il faut une grande boîte d'ananas en morceaux.
Maintenant, nous allons entendre un texte de Céline Casal. Rien, non, je ne regrette rien, ni les nuages blancs ou gris qui perturbent le ciel bleu azur et la vie qui va et vient autour de nos vies imperturbables. On commence par un petit thé aux fruits rouges et les pâtés de foie d'oie de canard se laissent déplumer par nos papilles dégustatives. Les passants sans casse-pieds avec leurs oreillettes qu'ils risquent d'être sourds avant l'âge comment ? Qui sait ? Et pour se dégager les oreilles du cérumen, ils vont monopoliser la piscine ou liton pour se baigner dans l'eau glacée. Quand je me sens seul et que je retourne en rond, je passe le temps aux mots fléchés. Au moins, je suis peut-être blonde, mais j'ai des neurones pour une lueur d'espoir.
Les aventures du narwhalo, c'est dans Ozone Libre.
Il était une fois, toujours peu après 1927, au cœur de la mairie du New Évreux, capitale du Nouveau Monde libre, l'avatar que jamais, alias le narwhalo, l'immortel Marilyn, la friolante taupe futée, Bébert, Youket ex Raput, Hermaphrodite Child et Air Professor Luke Love Crash Schont. Toujours aux prises avec Demi Larousseau, Père Noël, papa de Luke. C'est l'heure. Suite à la révélation de Demi Larousseau, annonçant qu'il est le père de Luke Lovecraft, Taupe Futée se rapproche de lui et lui glisse à l'oreille du bout des moustaches.
Je suis ta mère. Non, je rigole. Je suis la réincarnation d'Oedipe. Je pense que tu pourrais te délivrer durablement d'un problème ancré au plus profond de toi-même qui te ronge, te mange, te démange, du dedans avec l'extérieur de toi-même.
Bah, je comprends rien. Il est complexe, cet Oedipe. Mais enfin, un Oedipe, vaut mieux que trois, tu l'auras.
En d'autres termes, et pour être plus clair, bute ton père, au cas où. On sait jamais. Et c'est pas du symbolique, c'est du Sigismund.
D'accord. J'ai jamais été très famille. Mais comment ?
Il n'est pas cuit de l'intérieur. Il laisse des traces sur le couteau. On peut pas le dégorger. On ne dit qu'à lui faire... On n'a qu'à lui faire bouffer donc ses poils.
Pourquoi ?
Comme ça, pour voir, il faut qu'il ait trilophonique.
Il s'avère que la barbe à Papa Noël est de la vraie barbe à papa. Demi Larousseau, gavé de sucre, contacte un diabète foudroyant du troisième type. Il s'apprête à rendre son dernier souffle en râlant.
Avant de mourir, il me reste une chose à te dire. Laura Ingalls a réellement existé. Et c'est ta mère. Quant à toi, tu m'oublieras.
Ça change complètement mon système des valeurs.
Ça y est, il est mort. Nous assistons aux funérailles planétaires retransmises en Cosmovision sur Fox Chicken News. Commenté par Kevin Zitrone, dernier du nom, on l'espère. Le tout est organisé par le narwhalo qui n'a pas perdu de temps pour retrouver des fonctions officielles.
Allô Cognac G, nous sommes en direct des mythiques ruines des JO demi-saison de New Karachnouka, sur le territoire ancestral d'Ozoni. Il y a foule, il m'est difficile de voir le cercueil. Il faut dire que celui-ci est porté par des lutins de Noël, hyper bodybuildés au nombre de 2. Ils sont costauds quand même. 3, 2, 1, voilà le cercueil précipité sur la piste de bobsleigh. Farté plus que de raison, il atteint en quelques secondes la vitesse de 374 km/h et des limaces. Le cercueil termine sa course directement dans la flamme olympique, rallumée pour l'occasion. C'est joli et ça sent le caramel. Nous retrouvons Melson Moinsfort pour les réactions à chaud du public.
Je me trouve actuellement dans le restaurant Spoutnik, la police où la cérémonie est retransmise sur écran 5D. Amine Spoutnik, la police, fast food. Monsieur Elvis, quelle est votre réaction? Mr. Elvis, what do you think maybe it is if it is possible?
Cette semaine, et cette semaine seulement, en promotion pour 99 francs, le Larousseau Burger, one for the money, two for the show must go on. Et en dessert, une banane moustache.
Maintenant, on exclut la réaction du régicide superstar, Herr Professor Kingslayer Luke Lovecraft of Throne. Luke, pourquoi?
Ah, je me sens mieux, ça fait du bien. Je suis à la recherche de ma petite maman. Si vous savez croiser Laura Ingalls, merci de nous s'appeler ou de nous écrire à mamaouté.com. Outé, mamaouté. Outé, mamaouté. Chante Stromae. Une pensée pour ce trauma et à tous les stromatologues ou stromatologistes, je n'ai jamais fait la différence.
Breaking news, nous apprenons à l'instant que le Narvalo a pris le pouvoir universel et devient notre nouveau chef guide de haute montagne et de basse terre. Libérateur suprême et populaire, comme la banque, démocratiquement non élu, à l'insu de son plein gré et forcément d'une autre, en 49,3 secondes.
Chassé le Narvalo, il revient au Narguilé. Bref, encore des péripéties en perspective. Ce putsch du Narvalo amènera-t-il paix et prospérité ou lait et proxénétisme? Va-t-on couper les pattes de Laura Ingalls suite à cette libération? Charles, le coupeur de bois, a-t-il abattu toute la forêt amazonienne? A-t-il trouvé des émeraudes? Que fait Raoni? Bon, maintenant il est quasi 13h30, il est temps qu'on se casse. Au mois prochain, à la même heure. Tchuss!
Ici Rems, bonjour à tous les auditeurs, auditrices, terrestres et même à ceux qui sont dans l'espace infini et à ceux qui y iront. Je suis un drôle d'oiseau qui a rencontré un drôle de canard nommé Charlie, dans lequel, ne voulant pas devenir diabétique, j'ai plongé dans ce canard un édulcorant. Avec lui, je survole les USA et en honneur aux Juifs, je crie « Torah, Torah, Torah » 3 fois. Oui, mauvais souvenir, mais pour qui? Je crois pour tous les citoyens de la Terre. Et la suite, eh bien, demandez-la. Bon, allez, moi drôle d'oiseau, je vous livre une partie de ma vie. Je rajoute, bienveillant, qui ne casse pas 3 pattes à un canard ni à un trépied. Je me balade sur mes 2 pattes avec coussinet en accessoire, inclus et fourni par le concessionnaire, dans le prix de mon être. Entre nous, fourniture indispensable pour mes déplacements. Souvent, j'ai la tête en l'air et je ne vois pas plus loin que le permet ma vue, car je suis myope. De plus, je me prends pour une taupe, si bien que des fois, il m'arrive de me planquer la tête en bas des nuages, ou plutôt dans la terre, bien enfoui le derrière à l'air, mais la tête au chaud. Bon, c'est pas tout ça, je vais me dégourdir les jambes, ou plutôt les pattes. Bon, à droite, 2 lions, à gauche, 1 gazelle, et au loin, 1 mirage. F4, je tiens à le préciser. Depuis qu'il y a les djihadistes, mon espace se restreint, normal. Ils nous prennent pour cible et font souvent mouche sur mes congénères. Alors moi, vite, vite, je me planque la tête en bas des nuages. Bref, dans la terre. Mais bon, j'arrête de me répéter. Donc, courageux, je sors la tête de terre, puis regarde en l'air. Moi, ciel bleu, soleil implacable, sans nuages, d'un beau jaune. Bon, moi, je vais y aller. Et que me voilà toute fringante, allant de gauche à droite dans cette savane africaine. J'ai beau essayer de m'envoler, je n'y arrive pas. Je remarque le sable est chaud. Il est chaud et jaune, quand il y en a. J'ai peut-être une mauvaise vue, certes, mais j'apprécie le paysage. D'autres animaux qui, eux, vont à 4 pattes, des lions, oui, je les ai déjà vus, je les connais par cœur, puis des gazelles, et soudain un oasis en pleine savane. Mince. C'est pas trop tôt. Déjà, je me vois faisant ma toilette, libre, libre comme un oiseau, mais qui ne vole pas. Ah, zut, c'était un autre mirage. Oui, on l'appelle aussi MiG-23. Bon, là, je me remets en marche. J'apprécie ceux et celles que je vois en courant, mais là où ça me déplaît, c'est lorsque je cours pour échapper à ceux qui me poursuivent. Je n'ai plus le temps de voler, quoi que ce soit. Je n'ai plus le temps de voir quoi que ce soit. Je fonce, fonce, fonce. Le pire, c'est lorsque l'homme me pourchasse. Je ne vois plus rien tellement je me dépasse pour leur échapper. L'homme n'est pas humain. Ou moi, je suis autre. Oui, autre. Huche. Voire huchapin. Comme à une messe, mais je ne sais. Enfin et toutefois, je me rappelle le vent, le vert de l'herbe, le jaune du sable rare et la vision de mes congénères animaliers. On ne fait pas copain-copain, mais on supporte, sans trop se regarder. En bref errance sur Terre, oh, que j'aimerais voler, car il y a trop de broussailles et d'arbres que je dois éviter. Du vent, arbre, du vert, arbre, du jaune, sable, des personnes en général de couleur noire, je dois être en Jamaïque. Et là, je mets une croix sur le drapeau de couleur jaune, la croix. Puis j'enfonce ma tête sous terre, j'irai voir ailleurs. Bientôt, s'il y a d'autres touristes, tels des Boko Haram, des frères musulmans, et puis les Peshawar. Et de même, ceux qui œuvrent pour un califat. PS, va falloir que je fasse gaffe aux balles perdues durant leur entraînement au tir. Bon, c'est pas tout, je récapitule. Du vert, du jaune, du bleu, couleur de mes yeux. Du rouge, là c'est mon sang, versé pour vous et pour la multitude. Durant la scène, car sur les toits de Let It Be.
Minute du pôle, sagesse populaire.
Autant de brouillard en mars que de gelée en mai.
Autant de brume en mars, autant de fruits en mai.
C'est en mars que le printemps chante et que le rhumatisme, les rhumatismes commencent.
Des fleurs de mars ne tient pas compte, non plus que des filles sans honte.
En mars, les vaches au pré, si ce n'est pour manger, c'est pour s'y gratter.
En mars, quand le merle a sifflé, l'hiver s'en est allé.
Février et mars trop chauds mettent le printemps au tombeau.
Halles de septembre, pluie d'avril, rosée de mai, font d'août et septembre les plus beaux mois de l'année.
Le soleil de mars donne des rhumes tenaces.
Malgré le mauvais temps, Mars prépare en secret le printemps.
Bonheur, ozone libre, le temps passe.
Bienvenue chez Dobson.
C'est le moment de conclure cette émission en espérant ne pas vous avoir laissé sur votre faim. Nous remercions encore Madame Lebrax, diététicienne de Maredia, 6 place Alfred de Musset, 27 000 Évreux, d'avoir bien voulu répondre à nos questions sur le diabète. Mais encore à tous les auditeurs, les participants et l'équipe de Principe Actif, Mister JC et Mister T. Prochaine émission le jeudi 26 mars à 12h30. D'ici là, retrouvez nos podcasts sur le site de Principe Actif. Au mois prochain.